Artisans de paix. Artisans de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
Aujourd'hui, on va parler d'une organisation qui ne fait malheureusement pas l'actualité. Ce sont les Brigades de paix internationale, Peace Brigade International, PBI. PBI a été fondée en 1981 au Canada par une douzaine d'organisations. Son principe était très proche de l'idée d'une armée de la paix. Il s'agit de proposer des solutions non violentes dans des contextes de conflit et de protéger des groupes de la société civile par la présence de ces brigades. Cela reprenait l'idée de Gandhi de former un corps de volontaires dont l'objectif était d'intervenir entre les parties lors d'oppositions violentes. La première mission sur le terrain de PBI a été réalisée en 1983 au Nicaragua. 10 volontaires de PBI se sont interposés entre les forces sandinistes et les Contras dans le but de dissuader la reprise des hostilités. Un peu plus tard, la stratégie de protection développée par PBI au Guatemala s'est avérée efficace, à tel point que PBI a commencé à recevoir des demandes d'accompagnement, de protection venant du monde entier. PBI a actuellement des équipes de volontaires dans plusieurs pays, sur le terrain, Mexique, Guatemala, Colombie. Mais l'actualité actuellement, c'est plutôt le réarmement par milliards de dollars dans de nombreux pays, plus de bombes, de drones et de missiles. Et même nos économies de nos livrets de caisse d'épargne vont y contribuer. Une actualité quand même. La section française de BPI a organisé une journée d'initiation à l'intervention civile de paix le 11 février à Paris. Le programme a été posté sur le compte Twitter, enfin X, de l'association. Quel est le média qui relaie cette information? C'est Radio Présence, tout simplement. Daniel Vigne, bonjour.
Bonjour Yves.
Nous nous retrouvons pour la deuxième semaine pour ce voyage, ce parcours avec Lanza del Vasto, vos rencontres et sa vie et son œuvre et cet engagement que vous avez dans son pensée, dans la diffusion de son travail, de sa réflexion.
Oui, et puisque vous m'y avez autorisé, j'étais revenu vers l'enfance et ce tout premier souvenir à l'âge de 11 ans de la première rencontre avec cette figure de Lanza del Vasto. Et puisque nous suivons un peu le fil de mon parcours en relation avec cet homme, je dois vous dire que très vite, les choses sont allées plus loin dans mon cœur d'adolescent. Revenu en France, ou plutôt venu en France, 2 ans plus tard, à l'âge de 13 ans, j'ai lu personnellement ses livres avec une sorte de passion. J'ai lu en particulier les principes et préceptes du retour à l'évidence.
C'est pour un enfant de 13 ans, c'est pas évident.
Je devais avoir 14 ans, mais c'est un recueil d'aphorismes. Un peu en forme. Le sous-titre ancien était « Recueil de vagabondage ascétique ». C'est joli. Vous voyez, un homme en chemin qui essaye de concentrer, c'est ce que le titre suggère, l'essentiel. Comme dit Lanza lui-même, les quelques pensées qui me restent ont longtemps ballotté dans ma tête avec un bruit désagréable, on finit par sécher au soleil et à l'air, à se réduire à presque rien. Voilà. Et donc ces pépites, je les ai gardées au fond de moi. Et puis c'était aussi les années de lycée, et je me souviens très bien que au moment de passer en terminale, j'étais en première scientifique, j'ai annoncé à mes parents que je renonçais aux sciences en faveur de la philosophie. Venaient de paraître les premiers viatiques que Lanza a publiés très tardivement, vous voyez, qui sont ces carnets d'enfance dans lesquels lui-même, pendant ses études de philosophie, avait noté aussi des intuitions, des premières, les premières bases aussi de ce qui sera plus tard sa, sa philosophie. Et j'avais été fasciné par ces petits livrets qui portent des titres très poétiques, « Éclat de vie et pointe de vérité », voyez, et autres petits livrets qui m'ont fait renoncer aux mathématiques que j'aimais beaucoup pour choisir la philosophie, d'abord en terminale, puis, puis à l'université. Alors, mes parents se demandaient un peu qu'est-ce que je ferais avec des, un bagage de philosophie. Moi-même, j'en savais pas grand-chose. Mais Lanza m'avait fait aimer cet amour de la sagesse. Ou comme il dit d'ailleurs lui-même, on devrait plutôt dire une sagesse d'amour. Voyez ? Et je faisais le lien, au fond de moi, entre, évidemment, entre la vérité et l'amour, entre les lumières de la raison et puis la lumière de la foi que je cherchais. J'étais de famille chrétienne, mais j'avais pris mes distances. Et Lanza m'accompagnait sur ce chemin de recherche de lumière, de sens. Et alors, les années de philosophie à l'université de Nice ont été très, très, très dures de ce point de vue. Parce que ben, c'était les années d'un marxisme, nietzschéisme triomphant qu'on voulait m'inoculer à toute force et c'était pas du tout ma tasse de thé, si j'ose dire. Donc je lisais du Lanza en devant par ailleurs honorer les attentes de mes profs et ça ne collait vraiment pas. Mais la Providence veille. Parce que figurez-vous que mon père a fait faillite, si on peut dire que ça a eu un rôle providentiel. En fait, mon père était commerçant et une très bonne situation, mais ils étaient travaillés, lui et ma mère, par cette quête de sens. Et ils ont reçu ce tremblement de terre, cette catastrophe, comme le signe que quelque chose devait changer dans leur vie. Et donc, à ce moment-là, ils sont entrés à la communauté de l'Arche.
À la Borie Noble.
À la Borie Noble, exactement. Ou plutôt à Nogaret, qui était le petit hameau qui se trouve juste au-dessus. Il y a plusieurs hameaux sur le domaine. Et moi, fort de mes deux années de philosophie, je m'apprêtais à en passer une troisième quand j'ai dit non. J'arrête parce que je ne serai jamais professeur de philosophie. Il ne faut pas dire fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Et un peu contre l'avis de mes parents, curieusement, mais j'ai décidé de faire un long stage à l'Arche aussi.
Deuxième fois non, d'ailleurs. Après le bac, après...
C'est ça, oui. C'était une intuition qui me guidait et dont Lanza était la figure centrale. Je voulais me rapprocher de lui. Je n'ai pas été engagé dans sa communauté. J'y ai passé 2 années à peu près. Mais je l'ai fréquenté, entendu, écouté longuement. Et ses enseignements m'ont, on peut dire, imprégné de 15 ans à 21 ans. Hein, puisque nous allions souvent à la Borie Noble suivre des sessions, des camps d'été. Et cette sagesse que j'appréciais, non seulement je savais qu'elle me guiderait dans la vie, comme je l'avais pressenti très tôt, mais désormais, elle faisait signe vers quelque chose de plus grand que Lanza lui-même. Et j'ose dire ceci, Lanza del Vasto était pour moi le précurseur de ma rencontre du Christ. Vous le savez sans doute, il a placé sa communauté de l'Arche sous le signe de Jean-Baptiste, du prophète Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui prépare les chemins du Seigneur. Et vraiment, son message a été pour moi ce chemin qui s'ouvrait en direction de quelqu'un. Et la rencontre s'est faite, j'avais 18 ans. Elle s'est faite à l'Arche, d'ailleurs, de façon, je peux dire, fulgurante, avec le Christ vivant. Et désormais, Lanza n'était plus pour moi le maître. Et il avait été le témoin. Et celui que je voulais suivre, c'était Jésus. Mais je lui gardais toute ma gratitude et mon admiration. Et comme vous le verrez par la suite, je n'ai jamais oublié cette dette et cette grande reconnaissance.
Et c'est d'ailleurs une particularité de l'Arche de Lanza del Vasto, de la communauté, de s'ouvrir à tous les...
chercheurs de vérité.
Voilà. Et donc,
tout à fait. Et pendant ces années... Où je fréquentais l'Arche et où je vivais, où j'y travaillais aussi, de mes mains. Après les années de philosophie, j'ai appris la menuiserie, j'ai travaillé au champ. Eh bien, ce que j'ai évoqué à l'instant, en fait, Lanza l'a été pour beaucoup, beaucoup d'autres, de mes amis, de mes compagnons, on pourrait dire, de vie par la suite. C'est-à-dire cette lumière, cette flamme. Jésus lui-même dit « Jean a été la lampe qui brille et lui, et vous avez voulu jouir de sa lumière. » Et cette flamme qu'il portait, sans exaltation, de manière, comme je le disais, paisible, eh bien, elle touchait les cœurs, de manière très diverse, très libre. Et je crois que la gratitude sur laquelle je reviendrai, nous sommes beaucoup aujourd'hui à pouvoir dire, eh bien, à Lanza del Vasto, merci.
Merci, Daniel Vigne, sur cette deuxième étape, et on sera heureux de continuer la troisième étape la semaine prochaine.
Bien volontiers.